j'espère que vous allez bien. Effectivement, c'est un plaisir de vous retrouver en cette toute première émission de l'année.
Toute première émission. Je ne vous ai donc pas souhaité une sainte, brillante, heureuse, bénie année 2022 au nom de toute l'équipe de Radio Maria.
Bon, merci le courrier de Radio Maria.
Ah, voilà.
Ouais, ça va. Bon, bonne année à vous aussi. Une bonne année, c'est bien de se souhaiter une bonne année parce que...
C'est une bénédiction à prendre.
Se souhaiter la bonne année, c'est pas un vœu païen, c'est vraiment quelque chose qu'on doit s'approprier dans la foi également. Et donc, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année dans le feu du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, dans l'abondance de sa grâce. Voilà, c'est pas parce que les circonstances sont complexes que la puissance de Dieu est réduite. Bien au contraire, moi j'ai envie de dire que plus c'est complexe, plus on traverse des vallées de l'ombre sulfureuse, de virus, infestés de virus ou autre. Mais la protection de Dieu et la présence de Dieu se fait davantage sentir auprès de ses enfants. Donc c'est très source d'espérance et d'encouragement pour chacun d'entre nous. On va du coup... On va parler aujourd'hui, puis c'était le baptême de Jésus dimanche, et du coup, ça nous parle de l'Esprit-Saint, forcément. Donc on va parler aujourd'hui, en reprenant la phrase, « Il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu ». Pourquoi l'Esprit-Saint et pourquoi le feu? Quelle est la distinction? Voilà, on va voir tout ça tout de suite, mais pour l'instant, on va écouter une déclaration dans un chant qui dit « Jésus t'aime ». C'est le groupe Unit que j'ai découvert et qui est un petit groupe très sympa. À tout de suite. Voilà, quelle belle déclaration pour commencer l'année. Je trouvais que ce chant, d'abord, il ressemble un peu à ce que fait Mika, un artiste que j'aime bien, et je trouve ce chant plein de vie. Et je ne connaissais pas du tout ce groupe, Unit, vous pouvez chercher sur Internet. Et je pense que c'est un groupe catho, parce qu'il parle, il y a des albums qui parlent des JMJ, etc. Donc je pense que c'est un groupe catho, mais qui a un bon niveau sonore et une bonne énergie positive. Et voilà, et savoir que Jésus nous aime, et parce qu'il nous aime, il est toujours avec nous. Et c'est le cœur de notre foi de savoir que Dieu nous aime et que Jésus, justement, vient nous manifester cet amour du Père tous les jours pour nous. Et ça fait du bien de savoir que Jésus nous aime, et même quand nous ne l'aimons pas assez ou quand... ne le prouvons pas assez par des mauvais choix ou par quoi que ce soit, eh bien Jésus nous aime et il attend patiemment et il nous relève. Et c'est vraiment ce qu'il y a au cœur du cœur et au ciel. On passera notre temps à aimer Dieu et à être comblé par cet amour de Dieu. Et ça, c'est ce que l'Esprit-Saint vient nous révéler. L'Esprit-Saint vient répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous dit Paul en Galates. Hein. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et c'est le cœur rempli de l'Esprit-Saint et de cet amour qui doit être le nôtre tous les jours. Et c'est cette année 2022, déclarons que ce sera pour vous et pour nous l'année de l'amour, un plus grand amour de Dieu, un plus grand amour pour Dieu, mais déjà un plus grand amour de Dieu dans votre cœur, qui est vraiment cette plénitude. Vous savez, c'est comme un ballon de baudruche quand il est bien gonflé, il est au maximum de ce qu'il est dans la plénitude de son être. Et bien quand nous recevons le maximum de l'amour de Dieu, en fait avec Dieu la croissance, plus on reçoit, plus on désire et plus cette croissance est augmentée et donc plus on peut encore recevoir. Mais ce qui fait que nous sommes vraiment qui nous devons être, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Et donc effectivement, le Saint-Esprit a une action très particulière dans ce sens-là, puisque c'est lui qui répand cet amour de Dieu. Alors du coup, on avait ce qu'on appelle la Pentecôte d'hiver, dimanche dernier. Il y a deux Pentecôtes dans l'année. Il y a le baptême du Seigneur, où il y a cette descente du Saint-Esprit sur Jésus, la voix du Père qui se fait entendre, Jésus qui rentre dans les eaux pour signifier qu'il vient prendre les péchés du monde et qu'il vient en ressortir, donc les eaux étant le symbole de la mort. Et après, le mystère pascal qui aboutit à la Pentecôte de printemps. On pourrait dire que la Pentecôte d'hiver, elle est plus, et on va le voir dans un instant, elle est plus centrée sur la vie de la grâce, sur l'identité de fils de Dieu, puisque c'est ce que dit le Père, hein, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et de l'autre côté, la Pentecôte de Pâques, enfin du temps pascal, la Pentecôte de printemps, c'est plus une effusion de l'Esprit-Saint, donc pour la mission, pour l'équipement, pour le courage, pour l'onction, pour l'équipement charismatique, pour pouvoir faire que l'Église se déploie et cette croissance. Il y a comme cette vie intérieure et cette vie charismatique, vous voyez, qui se répondent et qui sont une seule et même illustration de l'amour de Dieu, du mystère de Dieu dans notre vie, de cette alliance hein, qui fait de nous des fils et qui, en même temps, nous fait faire les mêmes signes que Jésus. Et donc, nous n'avons pas reçu un esprit de peur qui nous fait déjà de rester dans la peur. Et déjà, je voudrais quand même vous souhaiter que cette année ne soit pas une année de peur. Et franchement, je trouve qu'il y a trop de chrétiens. J'ai déjà dû vous le dire, mais je veux vous encourager. Je veux vous encourager à lutter contre la peur, les différentes peurs qu'occasionne ce temps qu'on traverse. Moi, je suis quand même halluciné que beaucoup de chrétiens font pas la différence à ce niveau-là par rapport à des non-chrétiens, à des gens qui n'ont pas la force de la foi, qui n'ont pas la confiance en Dieu, qui n'ont pas. Et nous avons cette force de la foi, nous avons cette confiance en Dieu, nous avons aussi cette garantie que Jésus nous protège, qu'il est avec nous, comme un berger qui garde son troupeau. Hein, et s'il nous envoie dans la vallée de l'ombre, eh bien, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Bref, la parole de Dieu, qui est une puissance, elle est le meilleur antidote. Si on est parfois tenté par l'inquiétude, par l'angoisse, par la peur, peur du virus, peur du vaccin, peur de se rassembler, peur du contact personnel, fraternel, peur de. Il y a beaucoup de choses qui font peur aujourd'hui et qui pourtant, et qui ne devraient pas avoir lieu dans l'Église au nom de cette surnaturalité de la présence de Dieu dans notre vie et au milieu de nous, au milieu de son peuple. Hein, donc faites attention à ne pas être trop rationnel, trop intelligent, alors que Dieu est là avec nous tous les jours. Et avoir confiance en Dieu, c'est un choix, et c'est un choix qui n'est pas dans l'ordre du rationnel. Quand je dis que Dieu me protège, Dieu me protège. Quand Dieu dit, c'est pas un encouragement à faire n'importe quoi, mais juste que votre cœur reste dans la paix parce que Jésus nous donne la paix. Et une des voies par lesquelles le démon nous vide de la paix, eh bien, c'est développer la peur et l'inquiétude. Et Jésus dit bien la parole de Dieu nous dit bien dans l'Écriture, c'est Paul hein, qui dit ça, soyez dans la joie, ne vous souciez de rien. En toutes circonstances, remerciez le Seigneur, rendez grâce à Dieu. Hein. Donc c'est très important d'être attentif durant cette année, que je crois être une année spéciale, comme toutes les années, où Dieu a des trésors de grâce à nous donner, et des trésors de grâce, ils sont proportionnel à ce que les enfants de Dieu, ce que nous avons à traverser et à vivre. Donc il y a des grâces particulières et je crois personnellement hein, qu'il y a des grâces de nouvelles révélations, il y a des grâces de nouvelles manifestations de sa présence, des grâces de nouvelles de sa puissance dans votre vie, des grâces de sa d'expérience, de sa gloire dans votre vie qui vous sont préparées. Simplement, ne passez pas à côté en vous laissant focaliser sur les choses qui légitimement peuvent faire peur et inquiéter, mais gardons ensemble hein, les yeux sur Jésus-Christ, sur le royaume de Dieu, sur qui vous êtes dans le royaume, sur ce couronnement de gloire et d'honneur que le Christ vous a donné en partage pour que vous puissiez régner dans votre vie hein, par Jésus-Christ. Eh bien, ce règne, il est dans une prise d'autorité de la foi. Cette prise d'autorité de la foi, elle est extrêmement importante parce que c'est une décision que vous prenez d'affirmer les choses du royaume qui ne sont pas celles de la terre et l'Esprit Saint vous aide pour ça. Alors, du coup, on revient, c'était la parenthèse introductive. Si je fais beaucoup de parenthèses, on ne va pas y arriver. Donc, effectivement, n'hésitez pas à appeler si vous avez envie de poser des questions. Donc, je disais, le baptême de Jésus, Pentecôte d'hiver, il s'enracine, on avait en première lecture Isaïe 40. Isaïe 40 qui annonce un petit peu le programme de ce que va accomplir parfaitement Jésus. Ça commence par consoler, consoler mon peuple, dit le Seigneur. Première chose, c'est que Dieu veut répandre son Esprit Saint, qui est un esprit de consolation. Jésus dit, je vous enverrai le consolateur, le paraclet, le conseiller, le paraclet, mais il est le consolateur. Il est celui qui connaît l'affliction de chacun de nos cœurs et qui vient nous consoler par sa présence. Vous savez, quand on est enfant et qu'on est triste, eh bien, on a besoin de la présence de son père ou de sa mère et du câlin pour que ça aille mieux. Il n'y a rien de plus Il y a une tristesse de la solitude, il y a une tristesse que génère la peur, il y a une tristesse de l'abandon, il y a une tristesse qui est liée à l'épreuve. Et du coup, la consolation de Dieu, elle vient comme justement cet envahissement de la vie surnaturelle de Dieu en nous. Consolez, consolez mon peuple, parlez au cœur de Jérusalem, c'est-à-dire aller au plus profond du même. Et là, Dieu veut parler à notre cœur, à nous. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est votre cœur. Et dites-lui quoi? Que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main le double pour toutes ses fautes. Le crime est expié. Donc ça nous renvoie à ce que Jésus va accomplir dans cette œuvre de justification, c'est-à-dire qu'il va prendre tous nos péchés à la croix, il va les détruire. Son crime est expié. Alors vous allez dire, le crime, c'est un peu fort comme mot, mais son péché est expié, sa faute est expiée, son péché est effacé. Hein, Jésus va payer le prix pour nous. Déjà, on est dans un texte prophétique d'Isaïe qui renvoie à ce que Jésus accomplit. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous sommes dans cet accomplissement de ce que Jésus a fait. Et donc, puisque nous sommes en Jésus, nous sommes dans l'accomplissement, et encore plus donc du coup par le don du Saint-Esprit, dans cette consolation du Saint-Esprit, en vertu de ce que Jésus a fait comme œuvre de qui est la source de la consolation, la source de son de son cœur ouvert, eh bien c'est sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc préparez, ensuite on nous dit, préparez les chemins du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Et oui, parce que Dieu vient en nous, mais c'est à nous de préparer quand même le chemin du Seigneur. On le prépare par notre vie de prière, on le prépare par ce que je disais tout à l'heure, par un positionnement de foi. Si je laisse dans un jardin toutes les ronces envahir le chemin, je ne peux pas atteindre le but où mène le chemin, parce que j'ai laissé les ronces devenir un buisson, etc. Pareil dans mon cœur, je peux laisser envahir, et la peur pour moi est une ronce qui est très envahissante et qui prend très vite une grosse ampleur et qui fait perdre et qui centre sur elle, qui cache le paysage, qui cache le but à atteindre. Et donc quand Jésus nous dit, quand la parole de Dieu nous dit « préparez les chemins du Seigneur », il nous encourage à débroussailler dans nos mauvaises pensées, les pensées qui ne sont pas de Dieu, à débroussailler dans les pensées d'inquiétude, les pensées de peur, les pensées d'angoisse, les pensées de tout ça, les pensées de jalousie, tout ce qui peut en fait venir parasiter et qui vient naturellement. Vous savez, on n'a pas planté les ronces généralement dans un jardin. Elles arrivent toutes seules. Elles arrivent parce qu'elles étaient là presque avant qu'on achète le terrain. Mais donc, nous, pour nous, ces pensées-là, cette capacité à avoir ce trouble intérieur, et bien psychique, émotionnel, voire physique, et bien est inscrit dans le fait que notre chair, notre nature humaine, est marquée par le péché. Donc ne vous affligez pas qu'il y ait des ronces, ou qu'il y ait ces ronces qui sans cesse reviennent. Il y en a qui seront peut-être plus sensibles à l'angoisse, d'autres qui seront plus sensibles à la peur, d'autres qui seront plus sensibles à la colère, d'autres qui seront plus... Voilà, peu importe quelle est la ronce dominante ou les ronces dominantes, en tout cas, ce que nous dit le Seigneur, et c'est important parce que ça prépare la venue du Saint-Esprit, c'est prépare ton cœur. Prépare ton cœur en débroussaillant, en remettant systématiquement, en enlevant systématiquement, en remettant à la croix, en remettant au Seigneur toutes ces pensées, tout ce qui peut être de l'ordre de la ronce dans ta vie. Et cela inlassablement, hein, pas juste une fois en espérant que ça ne va pas revenir, en croisant les doigts, et parce que vous le savez, vous l'avez expérimenté, l'ennemi ne renoncera qu'à la fin, à notre dernier souffle et à la fin des temps. Mais nous aurons lutté jusqu'au bout, le combat de la victoire. Alors, dit le texte d'Isaïe 40, alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une nouvelle révélation de la gloire de Dieu. C'est extrêmement important. Et le feu dont on va parler tout à l'heure, c'est justement cette manifestation de la gloire du Seigneur. Dieu est glorieux, il veut manifester sa gloire. Quand il manifeste sa gloire, c'est qu'il manifeste ce qu'il est. Il est puissant, il est grand, il est fort, il est majestueux, il est Dieu. Il est glorieux, c'est souvent, le terme gloire, on l'a blanchi, on a enlevé toute sa superbe et on l'a ramené à la gloire des hommes et du coup à l'orgueil. Or, avant d'être cela, ça c'est un détournement à cause du péché, mais la gloire, c'est une propriété de Dieu. Dieu est glorieux et Dieu nous couronne justement de gloire et d'honneur. Donc ce que donne Dieu à ses enfants, notre héritage, c'est une couronne de gloire et d'honneur. Et vous savez, on pourrait faire un signe, un jeu. La dernière fois, on tirait les rois, comme vous avez dû le faire, et puis on avait une galette qui avait une couronne pourrie avec je ne sais quel personnage de dessin animé, bref, et une autre couronne qui était typique de la couronne des rois, avec tout en or, avec. Voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, l'une pourrait représenter la couronne que nous avons, que nous mettons nous-mêmes sur notre tête, vous savez, la couronne de l'homme, la couronne de l'orgueil, la couronne de la personne qui veut dominer, qui veut gérer sa vie, qui n'est pas en obéissance avec le Seigneur et qui n'est pas en discipline à la suite du Seigneur, à mendier, à écouter sa parole, à la mettre en pratique, à suivre Jésus sur ses chemins et non pas lui demander de venir sur nos chemins. Et donc déposer cette première couronne pour revêtir la couronne de gloire et d'honneur, avec donc la couronne d'or. Enlever la couronne des dessins animés et mettre la couronne d'or sur la tête en disant, Seigneur, c'est toi qui me couronne et je suis couronné de ta gloire à toi et de ta royauté à toi. Parce que c'est ça ce qui caractérise le chrétien, c'est d'être couronné de la gloire de Dieu, de la royauté même de Dieu, et non pas une royauté indépendante de Dieu, ce qui est le propre de la tentation d'Adam et Ève de vouloir être Dieu sans Dieu, et c'est ce qui est le propre de l'homme qui refuse Dieu aujourd'hui. Voilà donc, alors se révélera la gloire du Seigneur. On a une révélation nouvelle de la gloire de Dieu à accueillir aujourd'hui dans notre vie et à désirer dans notre cœur. Seigneur, montre-moi davantage ta gloire dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille, dans ce pays, dans mon église, dans ma France, dans l'Europe, etc. Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie, à moi, mais aussi dans la vie des hommes, puisque la parole de Dieu nous dit, et toute chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Il y a une manifestation. Quand se révèle la gloire de Dieu, il y a un témoignage. Il y a une manifestation et toute chair voit que la bouche du Seigneur a parlé et qu'elle dit vrai, qu'elle est véridique. Et cette bouche du Seigneur a parlé en envoyant son Fils Jésus, qui est le Verbe fait chair, qui est venu dans notre monde manifester, rétablir le royaume et manifester l'amour du Père pour les hommes en offrant le salut et en donnant son Esprit Saint. Et du coup, vous voyez comment c'est lié la révélation de la gloire, la manifestation de la gloire du Seigneur et le témoignage que ça porte pour que toute chair, pardon, voit que la bouche du Seigneur a parlé, que Jésus est la parole authentique du Père. Eh bien, vous voyez, c'est le témoignage que nous avons à porter nous-mêmes. Il faut que la gloire du Seigneur vienne en nous et qu'elle soit un témoignage de la puissance de Dieu en nous transformant, en transformant notre manière de vivre, en transformant notre vieil homme et en le dominant. Hein, vous savez que Paul emploie ces termes-là, hein, ne vivez pas sous la domination de la chair, mais vivez sous la domination de l'Esprit Saint. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et que la gloire du Seigneur soit manifestée à travers l'Église, à travers les chrétiens, à travers vous et moi. C'est ce que nous devons désirer. Mais donc, préparons les chemins du Seigneur pour ça, pour que la gloire du Seigneur se révèle. Et il y a ce cri, et Isaïe termine là-dessus, avec cette proclamation et qui doit réjouir notre cœur. Voici votre Dieu, il vient avec puissance. Voici le fruit de son travail avec lui. Voici votre Dieu, il vient avec puissance, avec lui le fruit de son travail. Ça, c'est ce qui nourrit notre espérance. C'est ce qui nous amène à une vision surnaturelle des temps que nous vivons. Parce que si on regarde les choses d'une manière naturelle, ça ne nous indique pas ça. Mais on sait que la parole de Dieu et les plans de Dieu se réalise jour après jour. C'est comme un tsunami qui avance, bah, très lentement, parce que les temps de Dieu ne sont pas nos temps. Mais à travers cette épreuve que nous traversons et que le monde entier traverse, il y a une fragilisation. Et cette fragilisation, elle est là pour ouvrir une brèche afin que l'eau de Dieu, le Saint-Esprit, puisse venir. Voici votre Dieu. Il vient avec puissance. Puissance de manifestation, puissance de guérison, puissance de consolation, puissance de salut, de relèvement, de vie nouvelle offerte à tout homme par la foi, avec lui le fruit de son travail. Le fruit de son travail, eh bien, c'est justement que nous portions beaucoup de fruits et que le monde croit en lui et en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Donc, voyez, ça doit être dans notre bouche parce que les chrétiens notre manière de parler amène une réalisation. Et si dans la bouche d'un chrétien, il n'y a plus cette déclaration « Voici votre Dieu, il vient avec puissance » ou dites « Voici notre Dieu, il vient avec puissance, avec lui le fruit de son travail. » Eh bien, « Voici mon Dieu qui vient avec puissance et le fruit de son travail avec lui dans ma vie, dans mon église, dans mon ministère. » Ça, c'est extrêmement encourageant. Peut-être que chaque matin, vous pouvez déclarer cette phrase, qui est une phrase biblique, donc elle vous bénit en même temps que vous la dites. Et en même temps, elle change, elle fait advenir, elle aide Jésus elle aide Dieu à faire advenir ses plans parce que c'est une intercession prophétique. Et voyez, quand on prend un texte comme Isaïe 40 et qu'on se dit que puisque nous sommes en Jésus, nous sommes dans son accomplissement et que son accomplissement est en train d'advenir, il est déjà partiellement réalisé par votre conversion, par votre amour du Seigneur, mais encore en devenir davantage, mais aussi pour le monde autour. Et c'est vraiment dans cet accroissement du désir que nous devons nous positionner. Donc alors du coup, après, on avait ça, c'était le programme, on va dire. Et puis donc, on avait le texte de l'Évangile, où on a ce parallèle avec le baptême de Jean-Baptiste, et puis Jésus qui se fait baptiser. Mais on ne va pas s'arrêter sur le baptême de Jésus lui-même, on va s'arrêter sur la phrase de Jean-Baptiste qui définit Jésus. Donc Jean-Baptiste proposait un baptême de repentance. Ça, c'est le premier point, ce baptême de repentance, il est important parce que c'est ce qui va ouvrir au deuxième baptême, celui que Jésus va proposer. Ce baptême de repentance, il est signe et il annonce le baptême dans lequel Jésus va être baptisé, qui est celui de sa mort et sa résurrection, dans lequel tout homme est baptisé. Nous sommes tous plongés dans la mort avec Jésus pour ressusciter avec le Christ, mort au péché, vivant pour Dieu. On voit que Jean-Baptiste, même il s'en prend aux pharisiens en disant « engeance de vipère, vous venez à moi, mais vous n'avez pas le désir de vous convertir, vous n'avez pas le cœur contrit, la repentance nécessaire ». Donc il y a ce baptême premier qui correspond pour nous à déjà la foi dans notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus et nous avons reçu en héritage le salut, déjà présent et en espérance. Et ce salut, c'est le fait d'être sauvé parce que Jésus a pardonné tous nos péchés et nous avons accès sans cesse à cette miséricorde de Dieu qui nous lave du péché. Son sang versé à la croix nous lave du péché éternellement. Enfin, pas éternellement, mais juste durant toute notre vie. Après, on n'en a plus besoin, il n'y a plus de péché. Mais donc, ce salut est le point de départ. Le point de départ de la vie dans l'Esprit-Saint. Encore une fois, ne passez pas votre vie chrétienne à courir après le salut, alors que, justement, le salut est déjà accompli par Jésus et que je ne gagne pas mon salut, mais je le reçois gratuitement et je le prends par la foi. Parce que le salut, le fait d'être sauvé, c'est Jésus qui l'a fait à la croix. Mais vous voyez que Jésus l'a fait à la croix pour ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pas juste. C'est comme si vous étiez attaché à un poteau avec une chaîne et que Jésus vient arracher la chaîne pour que vous puissiez entrer dans une liberté nouvelle et aller sur le vert pâturage sur lequel il va vous conduire. Et c'est exactement ça. Le salut opéré à la croix ouvre au baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau. » Ok, c'est le baptême d'eau. Le baptême dans sa mort et sa résurrection. Mais il vient, c'est lui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Pas du tout la même dignité. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Lui vous baptisera, il vous plongera, il vous immergera. C'est ce que veut dire baptisein en grec. Plonger, immerger. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Cette vie dans l'esprit, cette vie de la grâce, cette vie divine est le but du salut opéré par Jésus à la croix. Jésus nous sauve, alors nous devons passer par le baptême d'eau dans la mort et la résurrection de Jésus et accueillir ce salut qui nous donne la vie nouvelle, mais après c'est pour que cette vie nouvelle soit déployée en notre vie par le Saint-Esprit qui va agir et qui va être donné, qui va nous être donné pour que nous puissions vivre cette vie de Dieu. Alors on va regarder donc un peu cette phrase, il est 34, il me reste 10 minutes, donc on va absolument pas pouvoir faire tout ce que j'avais prévu, évidemment, mais du coup il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, avec un parcours biblique. Déjà l'Esprit Saint, c'est deux choses, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et puis dans le feu. C'est pas qu'il y ait deux baptêmes, mais il y a deux aspects, il y a la personne de l'Esprit Saint et puis il y a le feu de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, bon, on sait, c'est la troisième personne de la Trinité. On va être immergé dans le Saint-Esprit. On sait que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, hein, héritiers du royaume. On sait aussi que, donc, il fait de nous des fils de Dieu. L'Esprit Saint fait de nous, il nous met en position de fils de Dieu et d'héritiers de Dieu. C'est extrêmement donc important. Ce n'est pas le feu qui fait ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le feu va être l'action du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse et de révélation. L'Esprit Saint est un esprit de sagesse, de révélation, qui nous le fait vraiment connaître. Parce que la vie éternelle est cette connaissance de qui est le Père, de combien il nous aime, et de Jésus-Christ, et de ce qu'il a fait à la croix. L'Esprit Saint ouvre notre intelligence et notre cœur pour que nous puissions adhérer totalement et recevoir la connaissance du mystère de Dieu, de son amour, de ses plans, de qui nous sommes dans cette alliance qu'il a voulu faire avec nous et quel prix nous avons aux yeux de Dieu. C'est l'esprit de la gloire, donc c'est l'esprit de gloire qui nous glorifie, qui nous donne en partage la gloire, l'honneur, la puissance, tout ce qui est à Dieu nous est offert par le Saint-Esprit, puisque c'est l'attribut de Dieu et de son Fils, et comme nous sommes dans le Fils, bien, tout ce qui est à Dieu est à nous aussi, en participation évidemment. Pas en dehors du Christ, pas en dehors du Père. On peut encore dire que tous ceux, voilà, ça j'ai déjà dit, tous ceux qui ont l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint qui caractérise si je vais rentrer dans cette vie filiale, d'accord ? C'est pas la religion, c'est l'Esprit Saint qui vient attester, qui vient convaincre, qui vient en me faisant expérimenter l'amour de Dieu, qui vient mettre réveiller en moi un amour de fils pour le Père. L'Esprit Saint est le libérateur, le consolateur, le conseiller. D'accord ? Donc il agit dans mon cœur de manière intérieure. Il opère en moi comme il est l'esprit de vérité. Il me conduit dans la vérité tout entière, par une révélation, par un discernement. Il vient par ses dons m'aider justement dans toutes les choses de ma vie, les sept dons de l'Esprit Saint. Il met en lumière la vérité, et cette vérité nous rend libres. Donc cet Esprit Saint aussi nous libère profondément, intérieurement. La liberté, elle n'est pas de faire ce que j'ai envie. La liberté, elle est de choisir le bien. Et c'est qu'en connaissant Dieu et en étant illuminé, en ayant cette lumière intérieure, que nous pouvons choisir le bien en renonçant au mal, parce que nous avons la distinction, nous avons la capacité de discerner. De discerner les esprits, de discerner ce qui habite notre cœur et de changer, de transformer, de rejeter ce qui n'est pas la gloire de Dieu et de garder ce qu'il est. L'Esprit Saint lui-même prie en nous de manière ineffable. L'Esprit Saint a une activité, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, il réside en nous et avec lui la gloire de Dieu. Et il prie en nous dans ce Abba Père incessant qui finalement est un élan vers le Père, un élan intérieur qui veut attirer, emporter toute notre âme et notre être. Voilà, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est vraiment accueillir cette personne du Saint-Esprit pour qu'elle agisse en moi. L'Esprit Saint est l'agent de sanctification actif dans ma vie. C'est lui qui vient, qui m'est donné pour me sanctifier. Et il va le faire par sa personne même, par le fait même qu'il soit là. Donc je deviens un temple saint, j'ai une dignité, il imprime même un caractère nouveau, un sceau, le sceau divin, le sceau de l'appartenance divine est imprimé dans mon âme au jour de mon baptême, évidemment. Mais après, il y a ce feu. Et ce feu, il est extrêmement important parce que c'est, on va voir dans tout ce parcours biblique qu'on va faire maintenant, alors je ne vais pas pouvoir lire toutes les références, mais c'est intéressant. Donc je vais vous dire des citations, si vous n'avez pas bien un crayon, prenez les citations. La Bible nous parle de Dieu comme déjà un feu dévorant. Vous avez ça en Hébreux 12, 29. « Car notre Dieu est un feu qui consume. » Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le feu soit souvent employé comme un symbole de la présence divine. Comme par exemple dans l'épisode du buisson ardent, en Exode 3, 2, l'ange de l'Éternel est apparu dans une flamme au milieu d'un buisson, et Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Donc le buisson ardent, où Dieu va manifester sa présence, sa gloire, où il va révéler son nom à Moïse. Le buisson ardent. Nous-mêmes, on est appelés à être des buissons ardents, à être ce buisson, saisi par le feu du Saint-Esprit, un feu qui ne détruit pas, qui ne consume pas, mais qui rayonne la gloire de Dieu. Le buisson ardent est une image aussi pour nous au niveau personnel. On voit encore dans l'Ancien Testament que Dieu accompagne le peuple d'Israël dans ce qu'on appelle la Shekinah, qui est à la fois une nuée lumineuse et à la fois un feu, colonne de feu, colonne de nuée, qui va permettre aux Hébreux de quitter l'Égypte pour rentrer, passer la mer Rouge. Aussi, il y a cette nuée lumineuse dans le temple, dans la tente de la rencontre. Bon. Dans la vision d'Ézéchiel, Ézéchiel 1, verset 4, « Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. » Manifestation de Dieu dans une vision qui est donnée au prophète Ézéchiel. Le feu encore est souvent décrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comme un instrument du jugement de Dieu. Alors ça fait toujours un peu peur. Élie lui répondit, « Je suis un homme de Dieu, et que le feu, si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et te foudroie, toi et ta cinquantaine. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel et consuma l'officier et la cinquantaine de soldats. Et c'est aussi un signe de puissance, hein, de la puissance de Dieu. Juges 13:20, lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange du Seigneur s'éleva au milieu de la flamme sous ses yeux. Alors, après, quand Élie confronte les prophètes, les prêtres de Baal, eh bien, il invoque le feu du ciel et le feu du ciel tombe sur l'Holocauste et le consume. Il consume le bois, les pierres, la terre, il réduit tout absolument en cendres. Le feu d'Éternel saisit l'offrande. C'est intéressant pour nous. Dans tous les cas, à chaque fois, le feu est un don divin. C'est pas un feu que les hommes allument, c'est une flamme surnaturelle qui jaillit devant l'Éternel et qui consume l'Holocauste. Donc, ce feu vient du ciel et vient de Dieu. Dans le Nouveau Testament, du coup, toutes ces images d'offrandes, d'autels servent à illustrer, s'accomplit dans notre consécration au Seigneur. En tant que croyants en Jésus-Christ, nous-mêmes, on est appelés à offrir nos personnes et nos vies en sacrifice saint, agréable à odeur. C'est Romains 12, 1 qui nous le dit. Je vous recommande, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Bien. Donc nous offrons nos personnes, nos vies, notre cœur, etc. Et nous sommes saisis du coup par le don divin du feu du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est associé au feu. Jean-Baptiste donc lui dit, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui, Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Quand l'Esprit Saint a commencé son ministère dans l'Église, eh bien, il se révèle sous la forme de langue de feu qui tombe sur les apôtres à la Pentecôte. Ils furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Ça, c'est la Pentecôte de printemps. Une expérience, manifestation de la puissance de Dieu par des langues de feu également, pour manifester ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, saisissement de l'offrande, consécration de l'offrande et expérience de la puissance. Donc, ceux à la Pentecôte, les croyants, les apôtres, reçoivent le don de la puissance pour accomplir la mission de proclamer le royaume et de faire les mêmes œuvres que Jésus. Ce que dit Jésus dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint survenant sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et bien cette puissance est donnée quand ils reçoivent le Saint-Esprit sous des langues de feu. Les apôtres, j'essaye d'aller vite pour terminer, il me reste une minute, bon, un peu plus, ont expérimenté cette puissance aussi, sans doute avant la Pentecôte, parce que un truc étonnant, c'est quand Jacques et Jean, les disciples sont repoussés par dans un village où on ne veut pas qu'ils entrent parce qu'ils vont à Jérusalem, et ils se mettent en colère, Jacques et Jean, et disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme le prophète Élie, finalement, il invoquait le feu du ciel. Bon, ils vont se faire réprimander, mais ce qui est intéressant, c'est que les apôtres ont déjà cette expérience ou cette position qui leur dit « je peux faire descendre le feu du ciel ». Donc le feu est une belle image de l'œuvre du Saint-Esprit, elle embrase notre cœur. Et cette œuvre du Saint-Esprit, on peut la définir en trois points, je termine là-dessus, le Saint-Esprit, et la présence de Dieu dans le cœur des croyants. Le Saint-Esprit fait naître la passion de Dieu dans nos cœurs et le Saint-Esprit produit la pureté de Dieu dans nos vies. Trois points. Je ne vais pas avoir le temps de développer les versets bibliques, mais peut-être un à chaque fois. La présence de Dieu, Saint-Esprit, et la présence de Dieu dans le cœur des croyants. Cette présence enflammée, éclairée, guidait le peuple dans l'Ancien Testament, avec la colonne de nuée, je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, Dieu guide et réconforte les enfants par le Saint-Esprit, qui fait de nous un tabernacle, un temple vivant, et 2 Corinthiens 5 nous dit « Nous le savons en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de main d'homme. » L'Esprit Saint fait naître la passion, donc ce feu, c'est vraiment l'image de la passion dans nos cœurs, hein. Et ce feu qui brûle les disciples d'Emmaüs quand ils se dirent l'un à l'autre en Luc 24, 32, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» À la Pentecôte, donc aussi, on reçoit ce feu. Donc ça, on l'a déjà dit. Et enfin, l'Esprit Saint produit la pureté de Dieu dans nos cœurs. Le dessein de Dieu, c'est de nous purifier. Tite 2, 14, « Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir ses bonnes œuvres. » L'Esprit Saint est l'agent de notre sanctification et ce feu du Saint-Esprit, eh bien, c'est un peu comme le feu du fondeur qui vient purifier le métal de toute souillure. Le Saint-Esprit est ce feu qui vient purifier notre âme de ce qui a besoin d'être purifié.
Eh bien, mon cher Père, c'est bien ce qu'a compris Christelle qui nous envoie un message. Ouais. Elle a bien compris, vous parlez de feu. Alors là, je vous donne un petit tison. Elle dit « Bonjour mon Père, bonne année à vous. Merci infiniment pour ce que vous nous faites partager aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné en méditant l'heure sainte « N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde dans cette bataille. Nous partons avec une grande longueur d'avance. À savoir, le Christ a vaincu déjà tout ce que nous traversons. Savourant les grâces données en ces temps, en nous faisant petits, en nous confiant en sa miséricorde et en lui redisant que notre intelligence est limitée. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, Christelle. »
Amen. Ben voilà. Bon, écoutez, c'est la plus belle manière de terminer cette émission. Eh bien, merci Christelle pour ce beau partage. Et puis on se retrouve dans 15 jours.
Ben, dans 15 jours, dans nos studios, hein, dites-moi.
Oui, j'espère. Allez, à bientôt.
À bientôt, Père.